Aujourd'hui, Dieu s'attend et Dieu nous fait confiance. Il veut que nous soyons un peuple qui soit zélé pour apprendre sa parole, zélé pour la mettre en pratique, zélé pour recevoir, avoir un cœur ouvert. Nous devons être tous passionnés de Jésus aujourd'hui. L'Épître aux Romains disait, c'est par la grâce qui m'a été donnée. Voilà, je lis le verset. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir de lui une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie en chacun. Donc, tu as reçu une mesure de foi aujourd'hui. Tu as vraiment reçu cette mesure. Et un verset qui me tient depuis tant d'années, c'est dans le livre de Colossiens, c'est Paul qui dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc si tu te sens désespéré, abandonné, tu n'as pas forcément tu vois pas ton lendemain, tu vois pas ton avenir, eh bien sache que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Je prie aujourd'hui que le Seigneur illumine nos cœurs pour qu'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et ce matin, chacun d'entre nous est appelé par Jésus. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alors vous dites peut-être, c'est peut-être un peu abstrait tout ça, mais je sais que la foi concrètement dans nos vies, c'est des promesses que Dieu nous a données à chacun. Je vous invite à prendre un cahier, à écrire ces promesses, à les proclamer. Personnellement, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel pour ma famille. Également pour notre fils Nathanaël, c'est Ésaïe 35, verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet triomphera. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donne-moi les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ce matin, quelles sont les promesses que Dieu te donne? Quelles sont-elles, celles qu'il t'a données et celles que tu veux trouver? La Bible est remplie de promesses. Si tu ne sais pas, achète une Bible, lis-la, invite des amis à la lire avec toi et cherche les promesses de Dieu pour ta vie. Notre Dieu est fidèle, il est puissant. Et je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus aujourd'hui est le jour du salut. Alors à la fin du culte, venez, on va prier ensemble.
Merci Catherine. Waouh! C'est extra, Catherine, parce que tu as cité un mot, et c'est justement l'objet, moi, de cette seconde partie, la constance. Donc c'est extraordinaire, Dieu fait vraiment bien les choses. C'est une des clés, les amis, dont Dieu m'a parlé ces derniers temps. Un message court pour tous ceux qui ont besoin, comme moi, de cadre. Alors, est-ce qu'il y en a dans la salle qui, comme moi, ont besoin d'anticiper, d'être mieux organisés? Levez la main, que je me sente moins seul. Super. Eh bien, ce message, les amis, est pour vous, et bien sûr pour tous les autres. Alors pourquoi? C'est quoi à la base l'intérêt? Franchement, parce que sans constance, sans cadre, les amis, on diverge. On s'éloigne du but ultime, du beau projet que Dieu a préparé pour chacun. Tel un satellite qui n'est plus sur orbite. Je regardais justement par rapport à ça, les satellites peuvent continuer à tourner autour de la Terre sans tomber, car il y a deux forces, la gravité et la force centrifuge. Et c'est ça qui maintient l'équilibre. Ben les amis, si on n'a pas cet équilibre, on va de plus en plus diverger et s'éloigner du but ultime que Dieu a prévu pour chacun de nous. Alors quand on regarde la définition de la constance dans le dictionnaire, il est dit que, si on prend le petit Robert, c'est la patience, la persévérance de quelqu'un qui est entretenue par une force morale sans défaillance. J'ai pris également quelques synonymes pour que ça nous parle encore plus. Et la constance, il est dit aussi que c'est quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui est assidu, qui est fidèle, qui est obstiné, opiniâtre, patient, persévérant, stable, qui ne varie pas. La constance, c'est donc cette capacité à persévérer, à rester engagé et à maintenir un effort soutenu malgré les obstacles, malgré les doutes ou le manque de motivation qu'on peut avoir bien souvent. C'est donc la clé du succès dans beaucoup de domaines. Et on va peut-être tous se reconnaître là-dedans quand on parle d'études, quand on parle de sport, de travail, de relations. Et justement, ce manque de constance, pour ma part, j'en ai fait les frais à plusieurs reprises dans ma vie. Et le dernier en date, il n'est pas très vieux, c'était en ce début d'année. J'avais, pour certains le savent, j'ai changé un petit peu de travail tout en faisant la même activité. Je suis passé à agent général et j'avais une certification à passer à Paris. Alors je me suis dit, bon écoute, tu as dû avec toi, hein, ça va le faire, tu vas réviser un petit peu. Les autres collègues, on s'appelait, ils me disaient, bah, tu sais, moi je, tous les jours, on révise régulièrement. Et moi je me suis dit, non mais attends, ça va le faire quand même, c'est mon métier, je connais le domaine, il n'y a pas de raison. Alors, comme je fais de temps en temps, j'ai dit, allez, on va mettre un bon coup de collier avant cette épreuve. Donc, un mois avant, non. Une semaine avant, non. Trois jours avant. Trois jours avant, je me mets à fond à travailler. Je me lève tôt, je me couche tard, je révise sur les toilettes, dans le TGV, au déjeuner. Voilà, c'est à fond, à fond, à fond. Et on avait deux matières dans lesquelles il fallait avoir 80% de réussite. Je n'avais même pas très bien compris au début l'enjeu. Je pensais que c'était 70. J'ai regardé 80%. J'ai dit, ça fait quand même 16 sur 20. Bon, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Là. Il va falloir vraiment, vraiment que tu m'aides. Et alors que je fais l'examen, donc 120 questions, ça dure 2 heures. Je sors, je regarde le résultat et qu'est-ce qui se passe? 69%. Donc forcément, recalé. Bon, je vois qu'autour de moi, je ne suis pas le seul. Je suis rassuré, il y a 6 autres personnes dans la salle. Bon, je dis, bon, ça va, je ne suis pas tout seul. Allez, deuxième round, début février 2025, c'est très récent. Et là, cette fois-ci, je me dis, bon, il faut que tu apprennes quand même de ce qui s'est passé. On va être un petit peu plus assidu et je me dis, allez, on va le démarrer un petit peu plus tôt. Donc, je me mets à le faire. Et là aussi, hein, pensez peut-être à des situations où vous êtes mis à travailler quelque chose de manière un peu plus régulière, un peu plus constante. Ça marche pendant une semaine, ça marche les 10 premiers jours. Et puis là, il y a un petit relâchement, je me mets à plus réviser. Je reprends un petit peu 3 jours avant et je me présente à l'examen. Je me dis, bon là, quand même, tu es plus préparé, ça va le faire, etc. Je passe à nouveau l'examen à Paris. Et là, le résultat, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui va se passer? J'ai 79%. Il fallait 80. 79 dans l'une, 85 dans l'autre. Alors je me dis, bon, ils vont être sympas, ils vont normalement additionner les deux, ça fera 80. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça, il y avait vraiment marqué de nouveau recalé pour la deuxième fois. Là, je sors, je commence à avoir vraiment les nerfs, les larmes aux yeux, et je prie. Et je dis, Seigneur, tu es où? C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je te sers depuis tant d'années. Hein, je suis avec toi, je te loue le dimanche matin, je fais tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis je m'en veux, et puis il y a des choses qui ressortent. Vous savez, des fois, c'est ça. Quand on a un échec, on a des fois tout un panier, tout un lot de choses qui ressortent. Et là, c'est vrai, l'ennemi, il aime bien, parce que lui aussi, il est constant. Alors, il vient et il te rappelle, et il te dit, tu te rappelles, tu avais loupé ton bac une fois. Tu te rappelles, tu avais redoublé la seconde. Tu te rappelles comme tu es humilié aussi à l'école, chaque fois qu'on amenait les copies. Hein, vous savez, je ne sais pas si certains ont vécu comme moi, mais ça se faisait dans l'ordre crescendo. On commençait par les mauvaises notes. Et on finissait par les super notes. Et moi, chaque fois, petit écolier, je priais. Seigneur, surtout pas moi, qui ne m'appelle pas. Sarkis, 5 sur 20.
Oh, purée.
Voilà, donc, si vous voulez, c'est tout un tas de choses qui remontent. Donc voilà, forcément, on ne se sent pas très bien, on pleure, on est triste, on se sent humilié. Et j'avais envie, franchement, hein, de tout laisser tomber. On a beau vous dire, quelques années après, que vous avez gagné des médailles, des trophées, que vous êtes un performeur dans votre travail... C'est rien qu'avec cet épisode, vous avez envie de tout laisser tomber. Et là encore, peut-être que certains se retrouvent dans cette situation. Alors, je discute avec une collègue à moi. Elle me dit, mais tu sais, Samuel, moi, tous les matins, je mettais mon réveil. Tous les matins, voilà, qui passait. Elle n'est pas chrétienne. Hein, c'est juste pour... Donc, on apprend aussi des autres. Et elle me dit, tu sais, hein, moi, tous les matins, je me lève, je mets mon réveil. Et de 6h à 8h, pendant 2h tous les matins, pendant au moins un mois et demi, 2 mois, j'ai travaillé parce qu'on nous avait dit que l'enjeu était important. Cette certification autorité marché financier, il nous la faut. Et c'est vrai que dans mon travail, si je ne l'ai pas, je ne peux pas continuer à proposer certaines solutions patrimoniales. Alors, voilà, j'accuse le coup, je prie et le Seigneur, justement, voilà, me travaille et me rappelle, Sam, est-ce que vraiment tu as été constant? Est-ce que tu as vraiment été discipliné? Et alors que je m'en voulais, alors que je me disais, mais je me sentais humilié, première chose, le Seigneur me met en tête, me dit, mais regarde, si tu fais déjà l'addition, tu as eu 85% et 79%. Alors je disais, mais c'est dommage, pour 1%, pour 1%, pourquoi je ne l'ai pas eu? Mais il voulait m'apprendre quelque chose. C'était le pourquoi. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux m'apprendre? Et donc, il m'a déjà rassuré en me disant, tu vois, ce n'est pas mauvais. 79 et 85, j'ai fait le calcul, j'ai fait la moyenne. J'ai dit, ah oui, tiens, ça fait 15,8 sur 20. Tiens, dans mon enfance, je n'ai pas eu souvent 15,8 sur 20. Donc déjà, première chose, je me rassure. Je me dis, tiens, c'est bien, ce n'est pas trop mal. Et la deuxième, c'était de me dire, ben maintenant, tu vois, c'est un petit peu comme il s'est passé à certains moments dans ta vie. Tu n'as pas toujours été constant à certains moments et ça t'a joué des tours, ça t'a pénalisé. Que ce soit pour toi, que ce soit pour ta famille ou pour ceux avec qui justement tu travaillais ou que tu aimais. Donc voilà, ça m'a beaucoup parlé. Et écoutez bien ça. Et du coup, on a tendance souvent à surestimer l'importance du talent et à sous-estimer l'importance de la constance. Pourtant, ce sont ces petites actions répétées jour après jour, minute par minute, heure par heure, qui vont mener au plus grand résultat. Voici quelques personnalités inspirantes qui ont réussi grâce à leur constance et leur persévérance. Michael Jordan, recalé de son équipe de basket au lycée, mais a travaillé sans relâche pour devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il a raté 9000 tirs dans sa carrière, perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire. Et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Mais c'est pourquoi j'ai fini aussi par réussir. Thomas Edison, il a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique, affirmant « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. » Walt Disney, qui ne connaît pas Walt Disney, il a été renvoyé d'un journal pour manque d'imagination et a fait faillite plusieurs fois avant de fonder son empire. Et un petit dernier pour la route, Steve Jobs. Ben, il a été licencié d'Apple, la propre entreprise qu'il avait fondée, avant d'y revenir et de la transformer en l'un des géants technologiques les plus influents. Alors, c'est vrai que la constance, ça parle. Tu te dis, il y a forcément quelque chose derrière. Et à plus petite échelle, ça me rappelle aussi les défis qu'on s'est mis, et certains vont se reconnaître, au niveau des pompes. Puisqu'on avait un petit groupe WhatsApp avec certains d'entre vous, où on s'entraînait. Jour après jour, on rajoutait une pompe, et une deuxième, et une troisième. Et certains ont fini par faire 100 pompes. Oui, mesdames et messieurs, dans la salle, des personnes sont capables de les faire. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu une progression, il y a eu une rigueur, une constance. J'en viens à l'essentiel, la Bible, qui met justement en avant l'importance de la régularité et de la constance dans notre marche avec Dieu. Et voici justement quelques versets qui en parlent. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir, tu veux avoir du succès, et bien tu as déjà là une recette. Cet encouragement à lire sa parole jour et nuit, comme l'a rappelé aussi Catherine. Mais surtout, on a parlé de certaines célébrités qu'on connaît dans le monde, mais il y en a une. Une des célébrités les plus importantes qui justement nous recommande cette constance. Celui qui a marqué toute l'histoire de notre civilisation, qui est le point central, j'en discutais avec des jeunes il n'y a pas longtemps, même dans les livres d'histoire. On le retrouve dans toutes les frises. À chaque fois, c'est qui le point central? Jésus. Même un de nos anciens présidents, on lui a posé la question il n'y a pas si longtemps. On lui a dit, si vous aviez une personne avec qui vous aimeriez déjeuner, ça serait qui? Il dit, mais Jésus? Jésus? Qui c'est qui a fait des miracles? Quel est le seul qui a fait des miracles sur cette terre comme jamais? Jésus? Amen. Et dans la Bible, justement, dans Jean 15, un de mes versets préférés, il est dit, demeurez en moi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et c'est Jésus qui nous le rappelle. Vous voyez, c'est tout simple. Jésus nous dit, si tu veux Jésus dans ta vie, ben viens demeurer en lui. Et demeurer, c'est quoi? On en revient à cette constance. C'est quelqu'un qui s'arrête réellement continuellement, constamment, qui veut habiter dans un lieu. C'est ça la définition de demeurer. Donc on est vraiment dans cette constance, Seigneur. Si je demeure en toi, si je demeure en Jésus, Jésus demeurera en moi. Et ça, c'est Jean 15, verset 4. Mais juste après, au verset 5, parce que ça ne s'arrête pas avec Jésus, c'est ça qui est beau. Si je demeure en lui, qu'est-ce qui se passe? Ben, celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Pas un peu de fruits, beaucoup de fruits. Et on continue au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. C'est pas énorme ça, les amis? Et on pourrait continuer longtemps, et je ne veux pas m'arrêter, au verset 10. Si je garde ses commandements, il est dit, et si je demeure dans son amour, je pourrais demeurer, pardon, dans son amour. Si je garde ses commandements, si je garde sa parole, si je constamment, je reviens à lui, chaque jour. Pas juste comme ça de passage, pas juste une action coup de poing, ou allez, j'en ai besoin, je suis dans une crise, j'ai besoin de lui à cet instant précis. Non, il veut vraiment que ce soit constant. Viens demeurer régulièrement en moi et mon amour sera avec toi. Et en terminant au verset 11, toujours dans ce même passage de Jean 15, cela a été dit afin que ma joie, a dit l'Éternel, demeure en toi et que cette joie soit complète. Il veut que sa joie en nous soit complète. Amen. Donc c'est vraiment une des clés essentielles pour nos vies. C'est vraiment la base de la solution. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de persévérer. Ça me donne envie de continuer à me nourrir de lui, à venir à sa source régulièrement, chaque jour. Ça a été dit dans les chants, ça a été dit ce matin. Il y a tellement, tellement d'enjeux, les amis, à venir constamment dans sa présence. On arrive à la fin, j'aimerais donner quelques, justement, passages qui encouragent à cette constance. Si tu cherches la volonté de Dieu, tu as la réponse ce matin dans Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, parce qu'il est dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et on est là souvent à chercher, à se dire, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour ma vie? Comment je peux faire? Tu as déjà une réponse. C'est pas merveilleux? Sois toujours joyeux. Tu en veux une deuxième? Prie sans cesse. Une troisième, est-ce que tu l'es? Et ça aussi, que ça nous parle aussi ce matin. Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que chaque jour que Dieu fait dans ta vie, tu te lèves ou tu te couches et tu fais le tour et tu dis, Seigneur, déjà, merci pour ce qui va bien. Merci pour ce que tu as fait. Ou est-ce que tu passes ton temps à râler et à critiquer? Si tu n'as pas le moral, bonne nouvelle, Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et pour ceux qui n'ont pas compris, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si tu as enfin besoin de comprendre pourquoi tu es éprouvé, pourquoi tu passes peut-être par certaines épreuves en ce moment, 1 Pierre, verset 5, 8 te donnera la réponse. Sois sobre, mon ami, veille, car l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et c'est les amis, ce matin, pendant la louange, justement, le Seigneur m'a parlé, et peut-être c'est pour plusieurs ce matin, des personnes qui, aujourd'hui, ne savent pas trop comment se positionner. Et le Seigneur me disait, mais encourage-les à se positionner. Si tu te positionnes, bien sûr que ça ne fera pas plaisir à l'ennemi. Bien sûr que l'ennemi continuera de venir te titiller, viendra continuer de te mettre des bâtons dans les roues. Ça, il faut en être conscient. Mais si tu te positionnes, si vraiment tu te places auprès de Jésus, et on l'a lu ce matin, il sera là, il demeurera avec toi, il te comblera de joie, il te comblera d'amour. Et chaque fois que tu pries, il y a cette promesse qui répondra. Amen. Amen. Je vous laisse avec ce dernier passage pour terminer, finir avec ce beau verset de l'apôtre Paul. Ne vous lassez pas, ne vous lassez pas de faire le bien. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Waouh ! Waouh, Seigneur, on est encore dans cette constance. On est encore dans cet encouragement que tu nous fais, Seigneur. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit à quoi ? À faire du bien. Fais du bien tous les jours, là où tu es, là où Dieu t'a placé, que ce soit dans ton travail, que ce soit avec tes voisins, avec tes amis, partout où tu vas. Continue de faire du bien. Oui, mais c'est dur, des fois, ils me critiquent. Continue de faire du bien. Oui, mais je prends des claques. Continue de faire du bien. Il y a cet encouragement. Et peu à peu, tu moissonneras, tôt ou tard. C'est une promesse et Dieu est fidèle. Amen. Soyez bénis, les amis.
Je vais appeler Catherine, si tu peux venir. Viens, Catherine, parce qu'on va passer un temps de prière, je vous invite à vous lever.